L'écho d'Afrique sur RCL.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la radio RCN, votre émission L'écho d'Afrique. Toujours avec mon acolyte Coco. Comment tu vas, Coco?
Aïe, je vais très bien, mon frère. Et toi?
Ça va très bien.
Toujours avec le sourire.
Il faut. Nouveau thème aujourd'hui, on est sur le thème du colorisme. Et tu m'as encore amené une nouvelle invitée, cette fois-ci, ouais.
Et oui, on est parti pêcher encore une pépite.
Ouais, encore une petite, ouais.
Donc, on va la laisser s'introduire. Madame Odilon, on vous écoute.
Bonjour à tous, moi c'est Odilon Kouadio. Ivoirienne d'origine, consultante en protection des données personnelles. J'ai été invitée à la radio RCN pour parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est le colorisme.
Le colorisme. Est-ce que tu l'avais déjà entendu parler de ça?
Très vaguement.
C'est vrai que c'est un sujet quand même qui est très très méconnu, méconnu dans la société, en tout cas par le grand public.
Ouais. Et peut-être aussi un peu lié avec d'autres thèmes. Plus général,
le racisme, la discrimination, etc.
Alors que c'est pas forcément la même chose.
C'est pas forcément la même chose. D'ailleurs,
Eva nous expliquer.
et d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça lui tient autant à cœur? Je pense qu'on va percer un mystère aujourd'hui.
On va commencer très intéressant. Mais pour quelqu'un qui connaît pas, qu'est-ce que le colorisme et en quoi peut-être diffère-t-il du racisme, par exemple?
Je vais vous expliquer ce qu'est le colorisme en commençant par un exemple. Pendant la crise de la Covid-19, un challenge est lancé sur TikTok. Voilà. Et ce challenge consiste à se présenter de façon, je vais dire, débraillée au début, et sous une musique. Il arrive à un moment de la musique où la personne, il y a une transition qui est faite, et cette personne apparaît sous son beau jour, c'est-à-dire sous son 31, très belle, parfumée et tout. Ce challenge prend un peu partout dans le monde, hein. En Afrique, en Asie, un peu partout, tout le monde se lance dans ce challenge. Et des Ivoiriennes, je parle de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, des Ivoiriennes décident de faire le challenge. La vidéo est publiée sur Internet, plus d'un million de vues, des milliers de commentaires. Et parmi ces commentaires-là, il y a un bon nombre de commentaires qui parlent de la teinte D'une des jeunes filles,
oui.
Il y a un intrus dans la vidéo. Elle n'aurait pas dû participer à cette vidéo-là. Elle gâche le rendu final et tout. Et ces commentaires viennent de personnes noires comme elle, je veux dire des Ivoiriens comme elle, mais qui jugent que sa teinte est trop foncée. Et c'est là l'explication du colorisme. Donc on comprend que le colorisme, en fait, c'est une discrimination qui est basée sur la teinte ou, si vous voulez, la carnation de la peau. Une peau plus foncée
ou plus claire
est jugée tout simplement moins belle qu'une peau qui est plus claire.
On comprend
que les personnes à la teinte plus claire sont alors favorisées par rapport aux personnes qui ont une teinte beaucoup plus foncée. Et c'est là qu'est le colorisme.
Et c'est ça aussi, c'est là qu'est aussi la différence avec le racisme, du coup.
C'est ça la différence avec le racisme, dans la mesure où le racisme est une idéologie ou un système qui est basé sur le fait qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres. C'est ça. Et le colorisme diffère dans la mesure où cette discrimination-là, elle se présente au sein d'une même communauté. Ou bien d'un même groupe ethnique, simplement.
Un même groupe.
Et voilà, ce sont des personnes qui, dans votre communauté ou tout simplement dans votre famille, vous jugez moins belles. Ou peut-être moins intelligente, ou je sais pas moi,
mais en tout moins cas, coupable.
Moins coupable tout simplement par rapport à une personne qui a une teinte beaucoup plus claire.
Oui, effectivement, j'ai fait quelques recherches et apparemment, dans un état justement d'Amérique, il y a des peines même de condamnation qui sont moins lourdes pour des personnes à des teintes un peu plus claires que des personnes à des teintes un peu plus foncées. C'est incroyable. effectivement, ça peut aller très loin.
Très, très loin.
Alors, je me permets de me lancer sur cette question, justement. Quelle est l'origine, finalement, historique du colorisme et comment a-t-il évolué dans les différentes sociétés? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, sans forcément nous faire une cour d'histoire, au moins juste une petite
historique.
Voilà.
Ça vient d'où?
Oui, on dirait que le colorisme tisse ses racines tout simplement dans le colonialisme ou encore dans la colonisation et aussi dans l'esclavage. À cette époque-là, on a remarqué que les personnes qui avaient les teintes plus claires ne travaillaient pas dans les champs.
Ah.
Ces personnes-là avaient des postes, si je peux le dire comme si, ainsi, de domestiques, étaient à la maison, proches du maître, etc. Et les personnes qui avaient les teintes plus foncées, elles étaient dévouées justement aux travaux champêtres. Elles travaillaient dans les champs. Et on va dire cette hiérarchie dans la couleur de la peau s'est perpétrée plus tard même avec l'abolition de l'esclavage, à travers l'art, à travers le cinéma, etc. Où des personnes avec les teintes beaucoup plus claires ont été, on m'a dit, beaucoup mis en avant que les personnes avec des teintes foncées.
D'accord, donc c'est incroyable. Ça ne date pas d'hier. Quoi.
Incroyable. Donc, c'est-à-dire que déjà à cette époque-là, on considérait que la personne qui est plus foncée de peau va être plus, on va dire, avec une capacité de supporter le soleil, donc va être plus dans le champ.
Dans le
alors
champ.
Que la personne avec une teinte plus claire, on va dire, bon non, elle est fragile, il faut qu'elle soit donc domestique dans la maison.
C'est,
un peu.
C'est,
tu vois, déjà, c'est
voilà,
incroyable.
C'est bête. Si on peut le dire comme ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est perpétué à travers les années, l'histoire, la culture, etc.
D'accord.
Et aujourd'hui encore, le colorisme continue d'avoir des beaux jours sous nos tropiques.
Mais est-ce qu'avant, on parlait vraiment de colorisme ou c'était plus relié au racisme, du coup ? Ou on parlait déjà de colorisme ? Je ne sais pas si on peut dire parler, mais est-ce, que ça, ouais, est-ce qu'on peut dire que le concept était déjà là ?
Le concept était déjà présent, bien évidemment.
Oui.
Est-ce que le terme colorisme était utilisé ? Ça, je ne pourrais me prononcer là-dessus.
Ouais.
Mais comme je l'ai expliqué au départ, racisme, colorisme, on va dire...
ce sont des demi-sœurs.
Ce sont des...
des demi-sœurs, ça complète.
Des cousins, voilà. Mais comme je l'ai dit, le racisme, c'est une idéologie où une race va se sentir supérieure à l'autre.
Ouais.
Alors que le colorisme, comme je l'ai dit, c'est intra. Mais vraiment, c'est une discrimination intra-racial, justement, dans la communauté, dans le groupe ethnique, on va te considérer comme moins beau, tout simplement, parce que tu as la teinte.
Et si on revenait un peu à nous, notre émission, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce sujet-là devrait intéresser les médias? Parce que, bon, nous, on a la chance que ce soit un sujet qui tienne à cœur à Odilon et qu'elle puisse nous en parler. Mais à travers notre média, est-ce que les médias doivent jouer un rôle dans la promotion d'un idéal de beauté basé sur la couleur de peau, ou bien ils doivent plutôt être en train de sensibiliser justement sur... Est-ce qu'on a un rôle à jouer même là-dessus?
Bien évidemment que les médias ont un rôle à jouer. D'autant plus que le colorisme a été mis en avant par ces mêmes médias.
Ouais.
Pas forcément la radio. À la radio, là, quand je suis en train de parler, on ne voit pas la teinte de ma peau.
C'est ça.
Mais je veux dire, au cinéma... Dans les clips vidéo, il est arrivé un moment où les personnes avec des teintes beaucoup plus claires étaient celles qui étaient mises en avant. Je me souviens encore d'une émission que j'ai regardée en Côte d'Ivoire où une jeune femme justement parlait de ce problème-là et elle disait qu'elle n'avait pas été embauchée, tout simplement parce qu'on la considérait trop noire pour ce poste, trop foncée. C'était juste un poste de... comment je vais dire ça? Être à l'accueil dans une grande société.
Voilà.
Et elle a accidentellement entendu la conversation entre les dirigeants qui disaient que non, on ne va pas la prendre quand même, elle est beaucoup trop foncée.
Ah.
Voilà, donc déjà à l'accueil, quand les personnes arrivent, c'est l'image de notre société qui est mise en avant. Donc une personne à la teinte beaucoup trop foncée...
Ça dérange.
Alors qu'une personne, dès qu'on voit une femme qui a la teinte beaucoup plus claire posée là, naturellement,
là,
je mets ça entre guillemets,
là,
naturellement, elle paraît plus attirante. Ça donne une belle image, une bonne image de l'entreprise. Donc oui, les médias jouent un rôle important et c'est pour ça qu'il faut que les médias, donc le cinéma, etc., que ce soit dans la mode, dans l'art, etc., qu'on mette des personnes à la teinte beaucoup plus foncée en avant, c'est déjà en train de prendre de l'ampleur, tout simplement, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, ou avec des hashtags comme Mélanine Popine, Black is Beautiful, etc., où on voit des influenceurs mettre en avant cette teinte de peau-là beaucoup plus foncée, mais le travail reste encore à faire.
Eh ben, du coup, justement, on allait poser cette question. Que pouvons-nous faire, nous, en tant que média, comme vous dites qu'effectivement on a un rôle à jouer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre le colorisme au sein des communautés? Parce que, à part sincèrement en parler là comme nous sommes en train de faire et dénoncer,
on est là pour dénoncer.
Si on veut rentrer dans l'action, concrètement, quelle action nous pourrons poser? Parce que notre émission se veut une émission qui sensibilise et qui donne des pistes de solutions. Donc, nous, on ne veut pas juste être là, oui, le colorisme, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, par exemple, à nos auditeurs, que partout où ils sont et nous écoutent, ils peuvent, à travers cette émission, gagner des pistes d'action à mener pour pouvoir lutter contre ce colorisme-là. Et là, nous, on serait en train de devenir un levier pour c'est essayer ça. De lutter contre cette solution que de juste en parler en pour parler, communiquer là-dessus. Oui.
Je dirais tout simplement que la sensibilisation, comme vous êtes en train de le dire, M. Aïbou, est la première des options à mettre en place. Là, cette plateforme que vous nous donnez aujourd'hui à travers la radio RCN d'en parler, vous l'avez même dit au début, que c'est un terme qui est méconnu.
Méconnu, oui.
Donc déjà, là, cette émission, cette plateforme où on peut parler justement de ce sujet, c'est déjà un pas en avant. Il ne faut pas oublier que l'éducation est la clé de tout. Et donc, sensibiliser, éduquer dès le plus jeune âge les personnes, les enfants, sur ce qu'est le colorisme, sur ses impacts qui sont vraiment négatifs sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, déjà, c'est un pas. Et je voudrais citer, par exemple, une association qui est l'association Esprit d'Ébène, qui est située à Paris, et qui est une association qui, justement... à travers des projets éducatifs, des films, des animations, des peintures, etc., apporte déjà, on va dire, sur des pistes de solutions face au colorisme. On peut valoriser toutes les teintes de peau dans le cinéma ou encore dans la musique, dans les clips vidéo. Moi, je me souviens encore d'artistes qui, quand ils ont commencé leur carrière, était beaucoup, on va dire, foncé de peau. Au fur et à mesure que la carrière a évolué, je vois que la teinte de la peau a changé.
Comment
donc,
ça a changé,
justement, les personnalités publiques sont aussi des visages qui sont mis en avant. Donc, ces visages-là doivent être des modèles, si je peux le dire ainsi, pour permettre aux jeunes femmes, aux jeunes hommes de se reconnaître en elles, de se dire, j'ai une teinte beaucoup plus foncée, certes, mais ça ne fait pas de moi une personne moins belle que l'autre. Et aussi, on peut citer nos gouvernements, pourquoi pas nos gouvernements, qui doivent mettre en place des politiques pour permettre à ce que le colorisme puisse ralentir, tout simplement. Je me souviens encore du Ghana ou encore du Rwanda, qui a même interdit la vente de produits éclaircissants sur notre territoire.
Ah bon? On a un Rwanda dans le studio avec nous. Tu peux nous confirmer ça?
Je peux vous confirmer ça. J'avais vu passer
voilà,
ça.
Voilà, justement, qui a justement interdit la vente de produits éclaircissants sur le territoire pour permettre justement aux femmes de pouvoir s'accepter, aux jeunes hommes de pouvoir s'accepter tels qu'ils sont avec leur teinte, leur carnation de peau. Qui est différente, certes, mais nous sommes tous des Noirs. Je peux le dire.
Je pense qu'il y a un secret dans cette émission qu'on n'a pas encore percé chez notre invité. Je pense qu'on va faire une petite pause.
Oui.
Et quand on va revenir, ce que moi j'aimerais savoir, c'est est-ce que notre invité a été victime du colorisme?
Voilà, parce qu'elle a dit quand même que.
Je pense que.
Elle a dit quand même que ça lui tenait à cœur.
À cœur. Non, est-ce qu'elle pourrait s'ouvrir pour nous? Je pense que nos auditeurs seraient très contents de savoir. Quelle est l'histoire? Quel est vraiment son vécu avec le colorisme? Je te laisse introduire.
Et comme tu sais, on choisit toujours une musique recommandée par notre invité. Elle nous a recommandé une artiste ivoirienne, d'où elle vient d'ailleurs. On va écouter Mayway. Je ne sais pas si je dis bien, mais Mayway. L'une des plus influentes d'Afrique. On écoute un extrait de son album Jamais 203, sorti en 93, il y a un peu longtemps. On écoute Black Is Be.
Et nous n'oublions pas ma quinze ma tofle. Où est-ce que nous n'oublions pas de l'oise qui est dédié? Et ma, t'as qui ça qui est bani à copale? Mami Gio Aïe, que tu vois souvent? Mami Gio Aïe, Mami Gio Aïe, Mami Gio Aïe, Abba Foué Bolé Yoffe. Mami Gio Aïe, Mami Gio Aïe, Mami Gio Aïe, Abba Foué Bolé Yoffe. Thank you.
L'écho d'Afrique.
Vous êtes sur RCN, l'écho d'Afrique. Avec avec mon collègue, comme toujours, avec Coco et notre invité Odilon, sur le thème du colorisme.
Toujours.
Et Coco avait une petite question avant qu'on mette de la pause musicale. Tu peux la répéter?
Oui, bah écoute, on s'intéresse aujourd'hui à notre invité parce qu'elle nous fait l'honneur d'être là. Donc, on voudrait savoir justement ce thème de colorisme. Est-ce que, au fond de vous, vous avez déjà
vécu
à subir
oui, parce que
le
ça
colorisme.
Peut être, ça peut être un canal aussi, peut-être même qu'il y a des gens qui le subissent sans le savoir. Parce que comme j'ai dit, on a tendance à le lier au racisme. Donc peut-être qu'ils se disent « Ah, je suis victime de racisme », mais en fait, peut-être que c'est le colorisme. Donc est-ce que peut-être que votre expérience va peut-être être un canal pour cela? Est-ce que vous avez une expérience personnelle qui peut peut-être donner un exemple concret sur ce sujet-là?
Et oui, je dirais que malheureusement.
Ah, malheureusement, oui, on va dire malheureusement.
J'ai une expérience personnelle avec le colorisme.
Oui.
Je suis ici d'une fratrie de 7 personnes.
Ah oui, quand même.
7 enfants.
Quand même. Hein.
Ouais. Oui. Je suis la 5e de cette fratrie-là.
Ouais.
Il faut dire que contrairement à mes frères et sœurs,
ouais,
je suis la seule
qui
a la teinte beaucoup plus foncée que les autres. Et je crois j'avais. 11, 12 ans,
oui,
quand j'ai reçu une remarque de ma tante, et je dis bien ma tante.
La famille.
Voilà, c'est ce que je disais justement dans le cercle restreint, dans le cercle ethnique dans la communauté.
Ouais.
J'ai reçu cette remarque-là de ma tante. Je ne dirai pas cette remarque ici à l'antenne.
Oui, mais bon.
Mais je dirais que c'était une remarque vraiment péjorative,
ouais,
qui était intrinsèquement liée à la teinte de ma peau.
Oui.
Donc, je peux vous jurer que même aujourd'hui, je ferme les yeux, je peux vous répéter mot pour mot
ce qu'elle a dit.
Ce qu'elle a dit.
Ouais, ça vous a marqué.
Mais voilà, ça m'a marqué.
Ouais.
Et je veux dire, cette remarque-là a influencé mon comportement plus tard, parce qu'adolescente, je me suis toujours comparée, non seulement à mes sœurs, les frères, comme j'ai dit, qui étaient beaucoup plus clairs de peau que moi, mais aussi à mes amis, etc. Et je vais vous avouer qu'à un moment donné de ma vie, j'ai commencé à utiliser des produits éclaircissants.
Ah, ouais.
Éclaircissants parce que je me trouvais moins belle que les autres.
Ouais.
Parce que je me disais, écoute, étant donné que ma teinte de peau a été associée à ce... cet élément-là, sincèrement, j'ai pas envie de le dire à l'antenne.
Oui, non, il faut...
Mais voilà, c'était quelque chose de vraiment péjoratif, que je dirais même lié au fétichisme, si vous voyez, voilà, si je peux le dire ainsi.
D'accord.
Donc, je vais tendre vers cette perfection-là, si je peux le dire comme ça.
Ouais.
Cette perfection de la teinte beaucoup plus claire, qui est, on va dire, acceptable. Tout simplement. Donc, avec le temps, j'ai grandi.
Oui.
Je me suis fait une expérience dans la vie. J'ai rencontré d'autres personnes.
Oui.
J'ai entendu parler de ce sujet. Et je me suis dit, ah, là, on touche quelque chose parce que cette remarque-là, justement, m'est revenue de plein fouet dans la tête. Je me suis dit, mais j'ai été victime de colorisme, en fait. Et je lui ai dit, ce n'est pas venu de
nulle part.
De quelqu'un d'autre.
Oui.
Mais dans ma famille.
Dans ta famille, oui.
Donc, je me suis, on va dire, intéressée au sujet.
Oui.
Et j'ai essayé de le comprendre, d'essayer de comprendre tout simplement d'où est-ce qu'il venait, pourquoi on considérait qu'une personne avec une teinte beaucoup plus claire était forcément plus belle qu'une personne qui a une teinte beaucoup plus foncée.
Oui.
Et donc, voilà, j'ai évolué, je me suis documentée sur le sujet. J'ai... parler de ça autour de moi avec des personnes qui, on va dire, subissaient la même chose.
Oui.
Et puis, voilà, avec le temps, on se forge un caractère, on apprend à s'accepter tel qu'on est, et puis on comprend qu'on n'est pas si différent que ça.
Ouais.
Alors, je sais que vous avez fait un parcours, justement, de droit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par exemple, quand quelqu'un a été victime du colorisme et que... il aimerait porter plainte. Ouais. Est-ce qu'au niveau de la police, c'est quelque chose qui est facilement acceptable comme plainte qu'on prenne, ou bien il faut vraiment se battre pour que finalement ta plainte soit déposée? Comment ça se passe au niveau de la loi?
Tout simplement, est-ce que le colorisme est défini comme une infraction?
Ah.
C'est cela, parce que vous pouvez aller porter une plainte, il n'y a pas de souci, vous serez sûrement reçu, parce que tout le monde a le droit de porter plainte. Après, est-ce que votre affaire ou votre cas précis sera, on va dire, classé sans suite ou poursuivi tout simplement devant les tribunaux? À cette réponse-là, il faut se poser justement la question de savoir si le colorisme est défini aujourd'hui comme une infraction.
Et la réponse est non?
La réponse est non, parce que de mes recherches, je n'ai en aucun cas vu que le colorisme était défini comme une infraction.
Ah. Et du coup, ce qui m'amène à la deuxième question, c'est de savoir si, est-ce que le colorisme tue, tout simplement?
Est-ce que le colorisme tue? Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où, quand vous êtes indexé, parce que votre teinte est beaucoup plus foncée, je peux vous dire que mentalement, vous ne vous sentez pas bien.
Oui.
Donc, je ne sais pas si je peux dire que la mort mentale ou psychique
est prise en compte.
Pris en compte.
Oui, mais c'est important.
Voilà, c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale.
C'est ça.
Et je veux dire que le colorisme est un des facteurs aujourd'hui d'anxiété, si je peux le dire, ou bien de dépression chez certaines personnes.
Donc, à un moment donné, par où il faut commencer pour que, par exemple, cette situation soit reconnue comme une infraction? Est-ce que c'est la communauté de se réveiller et de faire voter des lois qui vont du coup passer à l'Assemblée nationale et que ça soit accepté? Parce que là, on est quand même en France et on parle d'un État quand même assez développé sur certains sujets pointus. Donc, nous étant une radio aussi qui veut véhiculer ces messages en Afrique, je me dis si déjà ici, ces sujets ou ces problématiques ne sont pas encore à ce niveau-là, comment ceux qui sont en Afrique aujourd'hui pourraient éventuellement se faire entendre, ne serait-ce que par la communauté qui est entourée déjà? Est-ce qu'on ne va pas juste négliger la chose en disant « Ouais, mais c'est toi qui es toujours subjectif, tu te plains alors que c'est juste une blague ?» Ou bien ça va aller vraiment un jour en évoluant grâce à ce que nous sommes en train de faire?
Il faut prendre le fait aussi que quand on le vit, si on ne peut même pas porter plainte, si on ne peut même pas se plaindre, on fait quoi?
Ouais.
C'est ça, c'est tout simplement ça, c'est aussi simple que ça en fait.
Après je dirais que, comme je l'ai dit, il y a des associations, des ONG qui luttent contre, si je peux dire, ce phénomène-là.
Ouais.
Et il est important de se tourner vers elles. Vous parlez aujourd'hui de porter plainte, de loi, etc. Au sein de la communauté, est-ce que, moi je dirais tout simplement, est-ce qu'il ne serait pas approprié de plutôt taper sur les doigts de ces personnes-là qui commercialisent des produits éclaircissants, par exemple. Et ouais. Comme j'ai parlé de gouvernements qui interdisent la vente de produits éclaircissants sur le territoire, on peut aller plus loin, peut-être mettre des taxes plus élevées sur la vente de ces produits-là. Il faut plutôt, moi je dirais, taper sur les doigts de ces personnes qui fournissent des produits éclaircissants, parce que l'achat de ces produits éclaircissants-là découle tout simplement du coloris que subissent certaines personnes. Ouais. Donc ce sont éventuellement des pistes, tout simplement, de solutions qu'il faut mettre en avant. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'éducation, la sensibilisation, c'est par là que tout passe.
Donc déjà, on parlait. Et pour vous, ça part des associations.
Voilà, des associations, des ONG qui militent. C'est aujourd'hui, on parlait pousser les personnes justement à s'intéresser à ce sujet-là, à le pousser, à le développer, à mener des études. Plusieurs études ont déjà été menées sur le sujet. Ouais. Mais voilà, pousser le sujet un peu plus loin et puis voir comment même au sein de la communauté, on s'organise afin de mettre stop tout simplement au colorisme.
Et j'allais justement demander quels sont les conseils pour aider une personne à s'accepter, à s'aimer telle qu'elle est. Effectivement, vous avez déjà un peu commencé à donner une partie de la solution, mais il faut effectivement, là, on a parlé de ce que la communauté ou l'environnement peut faire pour essayer de sensibiliser sur ce sujet.
Quand t'es chez toi.
Mais la personne même subir ça, comment est-ce qu'elle peut justement se mettre dans une démarche de dépasser ce racisme ou cette discrimination.
C'est ça.
Quels sont les éléments
plutôt cette discrimination.
Vous avez comme moteur. Voilà.
En plus, certaines personnes n'ont pas forcément le courage d'aller vers des associations, tout simplement.
Exactement. Aller pousser la porte.
Même s'il faut, on le conseille d'y aller, parce que ce soit une association, même une personne de la famille, etc. Il faut quand même en parler, parce que comme Odilon l'a dit, après, ça part dans un cercle vicieux de santé mentale mise en danger.
C'est ça.
C'est ça, il faut en parler, mais justement, comme il a dit, qu'est-ce qu'une personne en elle-même peut faire, doit faire pour ne pas tomber dans cette dépression-là?
Les conseils que je pourrais donner à une personne qui est victime de colorisme, je ne sais pas si je peux dire que c'est un conseil, mais sincèrement, il a été démontré aujourd'hui qu'il existe plus d'une trentaine de carnations de peau noire. Ça part du caramel à l'amande, en passant par le cacao,
ah ouais,
à l'ébène.
Je pense qu'effectivement, j'avais lu quelque part 36, non?
Oui, 36, 39, c'est, wow. C'est pourquoi je dis plus d'une trentaine de carnations de peau noire. Donc, il y a l'ébène, pure, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment très foncées de peau. Moi, je me souviens, j'ai même vu un jour un monsieur avec... il était tellement foncé de peau que tu as l'impression que même sa paume, est noire. Oui. Donc voilà, donc il y a plus d'une trentaine de carnations de peau. Vous êtes et parmi ces différentes carnations là, votre carnation existe.
C'est ça.
Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes belle tel que vous êtes.
Oui.
Et aussi à toutes les personnes qui s'intéressent ou qui voudraient mener la lutte, si je peux le dire ainsi, oui. Il existe aujourd'hui des livres, des films qui parle de ce sujet-là. Et j'aimerais en citer quelques-uns.
Oui,
donc, c'est par exemple le film Charcoal, qui signifie charbon.
Ouais.
Voilà. Qui est un film de Francesca André.
Oui.
Que vous pouvez retrouver sur des plateformes de streaming. Donc,
ouais.
À regarder.
À regarder.
Pour justement comprendre ce sujet-là. Et ces moyens-là. Comme j'ai dit, la télévision, les clips vidéo, le cinéma, quand on a des représentations, quand on a des personnes, en tout cas avec lesquelles on peut se représenter, je peux vous dire que ça change la vision qu'on a de soi-même. Et pour accompagner ce film, je voudrais citer un livre qui est intitulé « Femme claire, homme foncé, les racines oubliées du colorisme ». C'est un livre de Peter Frost que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et aussi pour les plus jeunes, comme j'ai dit, l'éducation, la sensibilisation dès le plus jeune âge, c'est aussi la clé. Je peux conseiller le livre jeunesse, par exemple, de Laura Safou, qui est intitulé « Le chemin de Jada », que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon. Donc, Voilà, c'est cette piste-là que je peux donner parce que, voilà, regarder des films, se documenter, s'intéresser au sujet,
et se battre.
Permet déjà de sortir de ça et de comprendre que bah, vous n'êtes pas seul au monde et que toutes les teintes, toutes les carnations de peau, sont belles.
Merci beaucoup, madame Odilon Kwadio.
Ça me rappelle une émission qu'on a eue il y a quelques semaines où une dame nous disait l'Afrique, c'est pas une Afrique, c'est l'Afrique des Africains.
Tout à fait. Donc là, on peut dire effectivement que l'Afrique, c'est une Afrique aussi des teintes, qu'il y a autant de teintes de peau.
36 teintes quand même. C'est ça. S'il y a 36 teintes, si on se préoccupe de la sienne, je pense que oui.
Et vraiment, en tout cas, c'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On espère que vous pouvez revenir sur un autre sujet que nous allons faire plaisir. On va se faire plaisir de vous recevoir.
S'il vous plaît, juste rappeler le nom de l'association pour les auditeurs qui veulent peut-être y adhérer.
Oui.
Le nom de l'association, je le répète, c'est Eben.
Eben.
D'accord.
Si vous voulez en parler, si vous voulez vous battre pour ce sujet-là,
laissez-nous des commentaires.
Laissez des commentaires et n'hésitez pas à aller contacter l'association pour pouvoir en parler et se battre pour que le colorisme peut-être un jour devienne une cause pour porter plainte, par exemple.
Tout à fait.
Parce que comme j'ai dit, c'est bien de peut-être se battre pour ça personnellement, mais il faut peut-être qu'un jour aussi on se batte devant la loi pour que si la loi l'interdit, les gens vont commencer à comprendre.
À comprendre.
Et vont commencer à accepter ce phénomène-là.
Je suis complètement d'accord.
En tout cas, on vous remercie encore pour,
merci
pour
à
votre
vous.
Participation. Je remercie mon acolyte comme d'habitude.
Bah, c'est notre travail.
C'est notre travail, comme
juste
d'habitude.
Juste une petite rectification. Là, oui. Le nom de l'association, c'est pas Eben, c'est plutôt Esprit d'Ébène.
Esprit d'Ébène.
Donc voilà, pour toutes les personnes intéressées, elle est située à Paris. Vous pouvez les contacter, envoyer un mail.
Oui, sur les réseaux sociaux, etc. Je suis sûr que sur Internet, si vous
cherchez. Oui, sur les réseaux sociaux, vous en trouverez aussi.
Donc, en quelque sorte, on peut dire que vous serez la référence de cette association, peut-être dans les années à venir.
Là, ils vont arriver, ils vont dire, je suis là de la part.
En tout cas, laissez-nous des commentaires et ça nous fera plaisir de vous accueillir, de vous écouter sur ce problème qui est très méconnu.
Merci à toi, Coco.
On va se partir sur une bonne musique que nous
avons invité. Comme d'habitude, on va écouter une très, très grande artiste, Oumou Sangaré, artiste malienne, militante aussi pour le droit des femmes, etc. Elle est née en 68 à Bamako. Et pas très jeune, mais bon, pas très vieille non plus hein, quand même, parce que j'ai dit, comme c'est dit, c'est une femme qui a de l'influence même jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Et on va écouter une chanson de son album sorti en 2009 qui signifie joie en bambara, si je me trompe pas.
D'accord.
On écoute Seya et sur ce, on vous dit au revoir et à bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt. Bamanyare sugu baromba male kawa bazesa amale wore wore bazesa male mitadi galadona ma wore wore galadona mala asanga bazenindo ikagelo masayala ake baga keneye Fisha ewa Mitanga tairi kesro Tairi fubakari soro Tairi smaila soro Tairi salama soro Kakanga baze ninkala Amale Kake shifu niyala Nale Kake taibasi ye Anale Itake manieri ewa Anale, Johnny Benny, kanu bagato. Nale, nenale, nale se wa nale se. Nena o malidei pemba. Anale se.
Say ya.